Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, que peuvent avoir en commun deux chercheurs en des disciplines aussi étrangères l'une à l'autre que le magnétisme cellulaire et la littérature arabe du Moyen-Âge, une science perpétuellement en quête de l'universel vivant, et une étude confinée à une langue et à une époque. Si l'on s'en tient à la science seule, on ne pourra guère imaginer de ci de là que des questions posées par la simple curiosité sur tel ou tel point venu, comme on dit aujourd'hui, nous interpeller, et que le spécialiste aura soin de rendre aussi peu érudit que possible, limpide à son interlocuteur. Fort heureusement, il y a tout le reste, quand le temps s'y prête. Entre mon arrivée au collège en 1976 et la retraite d'Anatole Abraham, 9 ans seulement. Trop peu pour prendre la vraie mesure d'un tel homme, nouer une vraie relation, faire de brefs entretiens, un véritable échange, profiter de tout ce que pouvait me donner, m'inspirer, la carrière d'un savant que ses découvertes et son engagement rendaient à mes yeux, comme à tant d'autres, exceptionnels. Il en est parmi vous de mieux placé que moi pour retracer la vie et l'œuvre d'Anatole Abraham. Quant à l'homme lui-même, et je ne voudrais pas que vous pensiez que ce que je vais dire maintenant offre une image réductrice de cet homme. Je voudrais simplement l'évoquer à travers 3 rencontres qui m'ont paru, à moi, essentielles, non seulement pour mes rapports avec lui, mais pour tous ceux que ces moments nous disaient de lui. Je retiendrai donc 3 moments où je le vis pratiquer d'une façon qui n'appartenait qu'à lui, et parfaite en l'occurrence, l'art de la communication. L'un des modes de cette communication était l'ironie, au sens premier, selon le vieux maître grec. Laisser à l'autre le bénéfice de la chose sue, tout en l'amenant à revenir sur soi, avec le doigté, la courtoisie nécessaire. Mais il n'est pas besoin, sans doute, d'aller jusqu'à Socrate. La seule condition de la vie y suffit. Que faire, par exemple, si l'on vous dit « Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. Je tiens de notre très regretté Yves Laporte la réponse d'Abraham. » Pas entièrement, mon cher collègue, pas entièrement. Réduirais-je donc un tel homme à des mots, à un mot, même bon ? Je ne crois pas, en fait. Dans la circonstance même qui en inspirait le choix, la parole était toujours pour Abraham l'outil d'une complicité adaptée, j'y insiste, à la circonstance et jamais aussi nécessaire que lorsqu'elle pouvait servir. Il y avait ce jour-là, autour de la grande table de notre assemblée, présidée par Yves Laporte, longue discussion autour de l'avenir d'un amphithéâtre, celui de physique, sauf erreur de ma mémoire. Fallait-il le conserver en y réparant de graves déficiences, le réaménager de fond en comble ou faire le vide pour réserver cet espace à d'autres activités? La sagesse et l'intérêt suggéraient de toute façon que l'on fermât le dit amphithéâtre, dont on ne savait plus s'il pouvait encore servir, ni comment. C'est alors qu'Abraham leva le doigt je le revois encore, pour demander la parole. Et il dit, confirmant l'opinion générale, « Monsieur l'administrateur, cet amphithéâtre répond assez bien à ce que nous autres physiciens appelons une structure improbable. » Il me reste à évoquer un moment, un geste qu'Abraham eut envers moi, pour moi, deux mots énoncés avec cette suprême aisance qu'il avait de dire l'essentiel et donc d'en dire davantage. Je venais de démissionner de mes fonctions à la Bibliothèque nationale et je remontais certains jours la rue Soufflot. Je vis venir en sens contraire Abraham, retraité depuis 2 ans. En m'apercevant, il s'arrêta à quelques mètres, sourit, ouvrit largement les bras et me lança « Alors, Cincinnatus !» Et Cincinnatus n'oublia jamais Anatole Abraham. Je vous remercie.